Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Nous en sommes sur cette longue série sur l'Apocalypse. Et je vous rappelle que nous étudions l'Apocalypse non pas pour avoir peur. Mais je pense que vous avez bien compris que l'Apocalypse renferme des trésors inestimables. D'abord sur l'éternité. Que l'Apocalypse, c'est une révélation extraordinaire. Et que c'est vraiment une révélation sur le royaume, la restauration du royaume. Et l'instauration du royaume de Dieu sur la terre. Et nous avons découvert des choses merveilleuses dans ces textes. Je vais en refaire un résumé bref et puis nous allons continuer. Donc, Jean reçoit cette révélation de Jésus glorifié. Et Jésus donc lui apparaît dans une vision. Nous avons étudié les différents types de visions, je vous le rappelle. Ensuite, le Seigneur, au chapitre 2, au chapitre 3, lui donne un message pour sept églises qui existaient à l'époque en Asie mineure, à l'ouest de la Turquie. Et nous avons découvert ces messages, comment ça parle à l'Église aujourd'hui. Et puis à partir du chapitre 4, nous avons vu que l'Église n'est plus sur la terre. C'est pourquoi nous avons dû poser un certain nombre de fondations sans lesquelles nous n'aurions pas pu aller plus loin. Donc je vous ai montré trois doctrines qui sont importantes que l'Église doit connaître. La première, c'est l'enlèvement de l'Église. Lorsque Jésus va venir chercher son épouse. Et nous avons vu que cet enlèvement va venir à un moment où on ne s'y attend pas. Et je vous rappelle que quand nous étudions les prophéties, qu'elles soient du Nouveau ou de l'Ancien Testament, il faut faire extrêmement attention. Parce que quand nous étudions en tout cas des prophéties qui viennent de l'Ancien Testament, rappelez-vous qu'ils n'avaient pas la révélation de l'Église, du mystère de l'Église. Nous l'avons étudié. Donc c'est seulement dans le Nouveau Testament que vous avez la doctrine de l'enlèvement. Donc nous savons que Jésus vient une première fois pour enlever son épouse. Les morts en Christ vont ressusciter premièrement, ils vont descendre du troisième ciel. Nous qui sommes restés les vivants, nous serons transformés en un clin d'œil et nous serons tous aspirés dans les airs vers le Seigneur. Et nous avons vu qu'après nous allons rester au troisième ciel. Et là, nous avons vu une deuxième fondation, c'est le tribunal de Christ. Où nous avons vu que le salut est gratuit. Mais nos récompenses dans le royaume futur qui vont déterminer nos positions dans le règne éternel de Christ, et bien c'est quelque chose que nous devons gagner en faisant ce que le Seigneur nous demande de faire. Ensuite, nous avons étudié, bien évidemment, les 70 semaines d'année de Daniel. Et c'est là où nous avons découvert toutes les prophéties que Dieu avait données au prophète Daniel. Et nous avons vu qu'il y avait 70 semaines d'années, 490 ans qui ont été prophétisées.
imyaka 190.
Et il y a déjà 483 ans qui ont été accomplis.
Hamahagataho amajana 183 yari maze gushika.
Au moment où il y a l'ordonnance de la reconstruction du temple de Jérusalem.
Aho hatangwa itegeko ryo gusubira kubaka urusengero.
Jusqu'au moment où le Messie est retranché, Jésus meurt à la croix.
Gushika gihe Messia atwagwa ka.
Et là, on sait que Daniel n'avait pas la révélation de l'Église, du temps de l'Église, de la dispensation de l'Église. Donc, nous savons qu'il reste cette année, il y a une coupure entre la 69e semaine d'année et la 70e semaine d'année.
Alors, nous savons que la 69e semaine d'année et la 70e semaine d'année.
Donc il reste 7 ans à accomplir dans la prophétie de
Daniel
avant que Dieu récupère la gestion de sa propriété, à savoir la terre. Et nous savons que l'issue dans l'univers, c'est la terre. C'est là où Dieu a mis la couronne de sa création, l'homme. Il a mis toutes les richesses. Et c'est là où il voulait étendre son royaume. Maintenant, nous avons vu qu'évidemment, l'extension du royaume a été gâchée à cause du péché d'Adam et Ève. Et que Dieu s'est créé un peuple. Et se crée un peuple qui entre dans son royaume chaque fois que quelqu'un va naître de nouveau. Un sujet est ajouté. Et nous régnerons, ce peuple-là régnera de toute éternité avec lui. Mais avant que ça se fasse, Jésus doit récupérer la gestion de sa propriété. Puisque Adam et Ève, le fait qu'ils aient péché, ont été transférés du royaume de Dieu vers le royaume des ténèbres. Et c'est là où, bien sûr, les droits que Dieu leur avait donnés sur la gestion de la propriété de Dieu ont été aussi transférés dans le royaume des ténèbres. C'est pourquoi que la Bible dit dans 2 Corinthiens 4:4 que Satan est le Dieu de ce siècle.
Donc,
après avoir vu cela, nous avons vu chapitre 4. Nous avons une description du ciel, ce qu'il y a autour du trône de Dieu, les 24 anciens, les chérubins, etc. Nous avons vu tous les détails là-dessus, c'est extraordinaire ce qu'on peut voir
ici.
Puis, chapitre 5, nous avons vu, il y a un livre qui a 7 sceaux. Et personne n'était digne d'ouvrir ce livre, et sauf l'agneau, Jésus qui s'est donné, bien sûr. Et je vous rappelle, à ce moment-là, le livre va être ouvert à partir du chapitre
6,
et il va y avoir des jugements sur la terre. Je vous rappelle que les jugements qu'il va y avoir ici sur la terre, c'est une œuvre de Dieu. La tribulation est une œuvre de Dieu. Son église a été enlevée. Et il ne reste que des inconvertis. Et Dieu va envoyer des jugements sur la terre. Il y en a qui vont se convertir pendant ces 7 ans. Et pendant ces 7 ans de tribulation qui sont divisés en deux parties, nous le savons, la deuxième partie, alors que Dieu va accentuer ses jugements sur la terre,
et
bien la deuxième partie va être, je dirais, particulièrement caractérisée par la venue de l'Antichrist, le gouvernement mondial. Satan va tout faire pour essayer d'éradiquer la connaissance de Dieu sur la terre. Et Dieu va continuer d'envoyer ses jugements. Je vous rappelle, quoi qu'il se passe sur la terre aujourd'hui, que ce soit des famines, des tremblements de terre, ou tout ce que vous, les guerres ou quoi que ce soit, rien n'est l'œuvre de Dieu aujourd'hui. C'est l'œuvre des conséquences.
Hein,
parce que les gens accusent Dieu pour tous les malheurs de la terre.
Mais
Dieu ne règne pas sur la terre aujourd'hui. Nous allons voir qu'à la fin de la tribulation, Jésus va venir régner avec vous et moi, c'est saint. Entre-temps, c'est les ténèbres qui font tout un tas de trucs contre les êtres humains pour emmener le plus possible de personnes en enfer. N'accusez jamais Dieu pour un malheur. Parce que Dieu n'est pas l'auteur du malheur. Pendant la tribulation, là, Dieu va envoyer des jugements.
Ça, oui.
C'est là où est toute la différence. Il enverra des jugements comme il en a envoyé à l'époque de l'Égypte. C'était des anges qui venaient frapper les Égyptiens. Donc faites bien la différence entre les deux, parce qu'il y a tellement de confusion, excusez-moi, il y a tellement de stupidités qui sont prêchées ou enseignées, que ça met de la confusion dans le corps de Christ. Et beaucoup de chrétiens sont, ne savent plus où ils en sont parce qu'ils accusent Dieu d'un côté, ils le prient d'un autre, et finalement ils sont complètement, je dirais, ils ne savent plus où ils en
sont.
Pendant la tribulation, par contre, il y aura vraiment beaucoup de choses qui vont se produire et Dieu en sera l'auteur. Donc nous le savons, chapitre 7, chapitre 8, Dieu envoie ses jugements sur la terre, nous les avons vus. Et au septième sceau, Dieu va alors multiplier ses jugements. Il y aura
1,
2, 3, 4, 5, 6, sixième
sceau.
Mais le septième sceau, Dieu va multiplier et accélérer ses jugements. C'est ça qu'il faut connaître dans la tribulation aussi. Et là, il va y avoir 7 trompettes qui vont sonner. Et là encore, il va y avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6e trompette. Et à la septième, là Dieu va envoyer les 7 coupes de sa colère. Et ça commence au chapitre 15, les 7 coupes de la colère de Dieu. Entre temps, chapitre 12 et chapitre 13, Jean reçoit des révélations sur les origines du diable, ses pouvoirs. Ensuite, la persécution qu'il envoie contre Israël et le peuple de Dieu. Ensuite, nous le savons, au chapitre 13, c'est l'Antichrist qui monte. Avec le faux prophète, nous avons étudié tout cela en détail. Et nous en sommes arrivés donc au coupe de la colère de Dieu. Et là, chapitre 16-17, et 18, c'est là où on commence à voir donc les coupes les unes après les autres. Et on voit qu'à partir de la sixième et la septième coupe de la colère de Dieu, nous sommes au bout de la tribulation. Et là, Dieu va montrer à Jean comment les systèmes de ce monde vont être démolis par la puissance de Dieu. Donc, c'est ce qu'on voit particulièrement au chapitre 17 et au chapitre 18. Et c'est là où on voit la fameuse Babylone, la grande prostituée. Et nous avons vu dans ces deux chapitres vraiment des révélations très intéressantes. Parce que Dieu montre à Jean, qui est lui-même extrêmement étonné, les origines des systèmes de ce monde, la façon dont Satan gère avec son quartier général les systèmes de ce monde. Et rappelez-vous que les systèmes de ce monde ont trois volets particuliers. Ce sont les systèmes politiques, les systèmes économiques et les systèmes sociaux. Et là, nous avons découvert plein de choses très intéressantes à propos justement du quartier général de Satan et comment il influence les hommes. Je vous rappelle que le diable et les démons ne peuvent rien faire sur la terre seule. Ils utilisent les êtres humains. C'est pour ça que Satan utilise l'influence. Car l'homme est influencé et influençable. Mais nous, nous n'avons rien à craindre parce que nous sommes le peuple de Dieu. Par contre, il faut savoir quelles sont les influences spirituelles. De la façon que nous devons apprendre nous-mêmes à marcher dans les lois spirituelles du royaume de Dieu avec les valeurs de caractère de Dieu pour justement contrecarrer l'influence du monde et pour soumettre certaines choses de l'influence du monde dans nos vies. Je vous rappelle qu'il y a certains enseignements sur le royaume de Dieu qui vont trop loin. Ce n'est pas à nous d'établir le royaume de Dieu sur la terre. Nous allons voir justement au chapitre 19. C'est Jésus qui viendra restaurer son royaume. Puis après l'instaurer sur la terre. Et nous passerons l'éternité avec lui, la finalité étant que Dieu soit tout en tous. Entre temps, il y a des étapes. C'est justement cela que nous étudions et que l'Apocalypse nous révèle. C'est pour ça que ce livre est vraiment passionnant de ce côté-là. Donc, au chapitre 17 et 18, Jean a vraiment des révélations sur les systèmes de ce monde. Toutes les influences, tous ces mystères de la puissance satanique. Et il nous montre clairement comment spirituellement les dieux et ses anges vont démolir cette grande prostituée. La grande Babylone. Où, spirituellement, parce que je vous rappelle ce qui se passe sur la terre est d'abord né dans le monde spirituel, même avec Dieu dans la création. Dieu a pensé à l'univers et au commencement était Dieu de toute éternité. Et il a parlé à partir du monde spirituel et le monde naturel a été créé. Et le monde que vous voyez aujourd'hui est le reflet des influences du monde spirituel. Que ce soit vous qui marchez dans le royaume de Dieu ou que ce soit des gens que vous pouvez voir à droite et à gauche faire tout un tas de trucs. Les nouvelles de ce monde. Regardez, vraiment, observez de temps en temps, asseyez-vous et observez à la lumière de ce que vous avez comme enseignement. Vous serez absolument étonné de ce qui se passe en vous disant, mais évidemment, il y a une racine spirituelle derrière tout ça. Et il y a quelqu'un qui essaye, qui obéit à ce genre de choses. Alors, nous avions vu la dernière fois le chapitre 18 et je vous ai montré les réactions célestes et païennes sur la chute des systèmes de ce monde. C'était vraiment l'objet du chapitre 18 où on voit vraiment dans le ciel ces réjouissances de la part des anges et Dieu qui est là et qui dit maintenant c'est le temps de ma vengeance. Je vous rappelle, nous n'avons pas à nous venger, mais il y aura un jour où Dieu rétribuera chaque péché qui a été commis sur cette terre. Et je vous rappelle que nous n'avons rien à craindre parce que nos péchés ont déjà été jugés en Christ. Mais chaque péché qui a été commis sur cette terre sera jugé par Dieu. Nous allons le voir. Rien n'échappe au contrôle de Dieu. Tôt ou tard, Dieu va régler les comptes avec les hommes, avec le diable et ses petits copains. Dieu soit béni, nous sommes déjà passés en jugement et nous avons été acquittés par sa grâce, par la puissance du sacrifice de Jésus. C'est justement ce qui fait toute la différence. Et nous avons vu aussi la réaction des hommes sur la terre. C'est pour ça que le chapitre 18 clôture, je dirais, les gens voient que les systèmes dans lesquels ils croyaient, l'antichrist avec le faux prophète qui les a tant séduits, qui leur montrait tant de miracles, de signes et de prodiges, en qui ils avaient mis leur confiance parce qu'ils avaient fait une alliance, la marque de la bête, cette alliance spirituelle irrévocable, ils vont s'apercevoir d'une chose, c'est que tout est en train de s'écrouler devant leurs yeux. Satan avait mis ce système où personne ne pouvait acheter ou vendre, où il avait réussi après avoir bloqué les systèmes politiques, d'avoir bloqué les systèmes économiques de ce monde.
Et
bien, à ce moment-là, les gens ont fait cette tragique erreur d'accepter la marque de la bête, ce qui les a liés pour l'éternité. Et c'est irrévocable, nous l'avons vu, cette marque de la bête. Donc, les gens se lamentent parce que tout s'écroule devant eux. Et oui, ils ont servi le mauvais maître. Mais nous, nous servons le bon maître, le bon berger. Et je vous garantis, nous verrons la rétribution des méchants. Nous verrons ceux qui n'ont jamais servi Dieu et qui n'ont jamais voulu le servir. Nous serons des spectateurs, nous verrons comment Dieu va les juger. Alors, nous allons commencer le chapitre 19 aujourd'hui. Et au chapitre 18, vous vous rappelez, nous avions vu donc les réactions des anges et des païens par rapport à la chute des systèmes de ce monde. Le chapitre 19 va être un chapitre charnière qui va clôturer la tribulation, et ça va se manifester par un événement sans précédent, c'est le deuxième retour de Jésus. Et qui va permettre l'entrée dans le millénium. Donc, nous allons étudier étape après étape, parce qu'il y a beaucoup de choses ici, il y a beaucoup de matières à étudier, des choses très intéressantes, mais encore, il faut bien les comprendre. Donc, on sait que les systèmes de ce monde sont détruits. Ça a été chapitre 17 et 18. Maintenant, Dieu va détruire ses ennemis, les hommes, qui auront refusé de servir le Seigneur. Je vous rappelle que pendant la tribulation, Dieu va frapper fort, mais il va donner de multiples chances aux hommes de se repentir et de le servir. Mais ceux qui accepteront Jésus pendant la tribulation, beaucoup vont souffrir, beaucoup vont être tués pour leur foi, beaucoup vont être persécutés, beaucoup vont passer par des temps terribles. C'est pour ça qu'on peut remercier le Seigneur d'avoir accepté Jésus dans la dispensation de l'Église, le temps de la grâce. Parce que ceux qui accepteront le Seigneur pendant la tribulation, ils vont vivre des horreurs. Mais un certain nombre vont quand même réussir à rester vivants jusqu'au bout de la tribulation, nous allons le voir. Donc pour l'instant, tant que nous avons vu Dieu juger la terre, il le faisait au travers de quoi? Au travers de ses anges. Nulle part nous voyons une intervention directe de Dieu sur la terre de lui-même en personne. Par contre, à la fin de la tribulation, c'est Jésus lui-même qui va venir en personne. C'est son deuxième retour. Je vous rappelle, entre le premier retour, c'est-à-dire l'enlèvement, et le deuxième retour, il y a 7 ans. C'est la dernière semaine d'année de Daniel. Donc ça, il faut bien s'en rappeler. Mais la tribulation, pour l'instant, Jésus est assis sur le trône à la droite du Père. Nous voyons ce qui se passe sur la terre à partir des jugements de Dieu. Comment Dieu ordonne les jugements. Comment il frappe les hommes. Comment il parle au travers de ses anges et au travers de ses serviteurs qui sont sur la terre. Mais pendant... Nullement pendant ces 7 ans pour l'instant,
et
Jésus lui-même n'est venu en personne sur la terre. Par contre, c'est ce qu'il va faire. Et nous allons être obligés d'étudier pas mal de choses. Bien sûr, pour comprendre ce chapitre, nous devrons étudier certaines paraboles de la fin des temps que Jésus a données à la fin de Matthieu 24. Entre autres, la parabole des serviteurs, les bons et les méchants serviteurs, on va étudier cela. Puis celle du début de Matthieu 25. La parabole des vierges, des 10 vierges. Et la parabole des talents. Donc tout cela, nous allons être obligés d'étudier. Et nous étudierons, avant d'étudier ces paraboles, tous les événements qui vont amener le retour de Jésus. Nous allons les étudier d'une façon chronologique, c'est-à-dire par rapport au temps, comment ça va se produire. Alors d'abord, nous allons voir le début du chapitre. Nous allons lire entre du verset 1er jusqu'au verset 6. Et là, nous allons voir les réjouissances des rachetés. Pour l'instant, nous avons vu les réjouissances des anges. Je vous rappelle qu'au chapitre 18, c'était les anges qui se réjouissaient, le ciel, le monde angélique du ciel qui se réjouissait. Mais là, nous voyons, depuis que les systèmes de ce monde ont été frappés par Dieu et démolis par Dieu, là, nous allons voir le peuple de Dieu, c'est-à-dire nous, les rachetés, quand nous serons au troisième ciel. Nous allons éclater en louanges. Donc, versets 1 à 6, il est dit la chose suivante. « Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. » Verset 2. Parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. Rappelez-vous, les systèmes de ce monde, c'est ça que ça veut dire. Et il a vengé le sang de ses serviteurs en les redemandant de sa main. Verset 3. Et ils dirent une seconde fois, Alléluia, et sa fumée monte au siècle des siècles. Je vous rappelle que la fumée, c'est... Revenez au verset 3, merci. La fumée, c'est le symbole de l'onction, de la présence tangible de Dieu. Faites attention, ce n'est pas la fumée de cigarette. Verset 4. Et les 24 anciens et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant « Amen, Alléluia ». Verset 5. Et une voix sortit du trône disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous tous qu'il craignait, petits et grands ». Verset 6. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de gros eaux, comme un bruit de fort tonnerre disant « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, regardez bien, est entré dans son règne. » Est-ce que tu peux lire le verset 6, s'il te plaît?
Alors,
ici, ce qu'on voit, c'est vraiment la réaction du peuple de Dieu. Qui est au troisième ciel, qui a vécu le tribunal de récompense, qui a été pour l'instant le spectateur de ce que Dieu envoyait du ciel sur la terre, le jugement. Ce sera nous, là-haut. Apocalypse 19, nous allons le vivre ensemble, frères et sœurs. Je vous ai montré qu'il y a beaucoup de choses que nous allons vivre ensemble. Beaucoup de déclarations que nous ferons en commun dans le ciel. Ça, c'est exactement ce que nous déclarons au Seigneur. Et
vous
voyez, là, il est dit une chose importante. Au verset 6, il est dit, à la fin, car le Seigneur Dieu le Tout-Puissant a établi son règne.
ngo kuko umwami imana yacu ishobora byose ihangana
ou est entré dans son règne dans d'autres versions. Vous savez, parfois les chrétiens disent des choses qui ne sont pas bibliques. Par exemple, il y a des chrétiens qui disent Dieu règne sur la terre. S'ils le disent d'une façon prophétique, je suis d'accord. Mais s'ils le disent en pensant que c'est une réalité aujourd'hui, je ne suis pas d'accord.
Non,
Dieu ne règne pas sur la terre aujourd'hui. Parce que s'il règne sur la terre avec le désordre qu'il y a sur la terre, comme le disait un jour un journal païen, les chrétiens disent que Dieu règne sur la terre aujourd'hui. Et ce journal païen rajoutait, eh bien, s'il règne, eh bien, le Seigneur a encore, leur Dieu a encore beaucoup de travail. Est-ce que je
veux dire?
Bah oui, parce que cet homme-là réalisait bien que si c'était vraiment réel. Vous savez, par exemple, nous avons des chants Jésus règne sur est le Seigneur du Burundi. Le Seigneur du Congo. Le Seigneur du Japon. Le Seigneur de la Corée du Nord. Vous voyez, parfois on fait des déclarations parce que je ne sais pas, quelqu'un a entendu ça quelque part. Non, Jésus viendra régner. Il viendra récupérer la gestion de sa propriété. C'est pour ça que je vous le dis et je vous le répète. Il y a de très bons enseignements actuellement sur le royaume de Dieu. Mais il y a des gens qui utilisent ces enseignements non pas pour que le Seigneur règne, parce que d'abord le Seigneur ne viendra pas régner sur la terre aujourd'hui. Il y a malheureusement certains leaders chrétiens qui utilisent ça et en fait ce sont eux qui veulent régner sur le peuple de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis désolé, nous n'avons pas à régner sur le peuple de Dieu. Quand un serviteur de Dieu commence à faire ça, c'est qu'il commence à dévier. Il faut bien comprendre le royaume de Dieu. L'influence du royaume de Dieu. Et rappelez-vous, les serviteurs de Dieu n'ont pas à être adulés, c'est-à-dire presque mis sur un piédestal comme s'ils étaient des rois. On n'est pas des rois. En tout cas, sur le peuple de Dieu. La Bible nous dit clairement, bien sûr, que nous sommes des rois et des sacrificateurs en tant qu'individus, en tant que peuple, oui. Mais
ce
n'est pas en ce moment dans la dispensation de l'Église que nous devons régner, entre guillemets, les uns sur les autres. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Satan est le dieu des systèmes de ce monde. Et que ce serait une catastrophe qu'on se permette de dire que nous aussi, nous dirigeons le peuple de Dieu sur la terre actuellement. Vous allez très bien comprendre ce que je veux dire quand nous allons étudier le millénium. Parce que là, l'ennemi sera hors d'état de nuire. Et Jésus viendra pleinement régner sur la terre à Jérusalem. Nous serons ses sujets. Et nous verrons sur qui nous allons régner. C'est important de bien comprendre cela. Donc ici, nous voyons dans tous ces passages, nous avons suffisamment étudié le troisième ciel pour ne pas reprendre toutes les expressions,
le trône,
les 24 anciens, tout ça, vous savez ce que c'est. Donc, mais on voit la réaction du peuple de Dieu là, par rapport au fait que Jésus a démoli la grande prostituée, Babylone.
Babylone. Donc, tout le quartier général de Satan qui régnait sur les systèmes de ce monde.
Donc maintenant, nous allons lire du verset 7 au verset 10. Et nous allons étudier un certain nombre de choses. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée.
Tunezegwe duhimbagwe tuyihe icubahiro kuko ubukwe bwa wa mwagazi w'intama bushitse umugani wiwe ariteguye.
Verset 8. Et il lui était donné de se vêtir d'un fin lin éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Verset 9. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Verset 10. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie.
Utihahigwa abatorewe gutaha ubukwe bwa wa mwagazi kandi arambarira atayo namajambo y'ukuri y'Imana nikubitishwa hasi imbere y'ibirenge byiwe no kumusenga arambarira ato yasigaho ndumugurano mugenzawe kandi ndi mugenzi wa bene so bafise ibyo gushingira intahe Yesu Imana ba ariyo usenga kuko abashingira intahe Yesu baba bavugishwa na mpwemo.
Alors ici, là encore, nous avons beaucoup de choses à commenter. Et bien sûr, nous allons parler des noces de l'agneau. Ou du mariage de l'agneau. Alors, dans la culture orientale, parce que Jésus va bien sûr nous parler à la lumière du Moyen-Orient. Parce que la Bible va nous parler que Christ est un époux, que l'Église est son époux, et qu'il y a des amis de l'époux. C'est une image. Alors, certains ont fait des commentaires plus ou moins importants sur les noces ou le mariage de l'agneau. Mais l'image est la suivante. Au Moyen-Orient, là où, je dirais, l'image est prise par Jésus volontairement pour qu'elle soit comprise pour les gens de son époque. Le mariage devait, les noces se préparaient en trois étapes. La première étape, bien sûr, les fiançailles. Et c'est là où la future épouse et le futur époux se rencontraient et faisaient connaissance. Et évidemment, pour nous, c'est toute une image à propos de la nouvelle naissance. Dieu est en train de préparer, de se préparer une fiancée, c'est l'Église. Et je sais que les hommes n'aiment pas penser que nous sommes la fiancée de Jésus et que nous allons devenir l'épouse de Jésus.
Mais
c'est une image que Dieu donne dans sa parole pour nous montrer un certain nombre de choses, bien évidemment. Et là, on voit que quand l'évangile est prêché, c'est une image que certains donnent et que j'aime bien. C'est l'appel de l'époux par rapport à l'épouse, la fiancée. C'est le temps de l'Église. À chaque fois que l'Évangile est prêché, la mission de l'Église, c'est quoi? D'appeler les gens à la repentance et à l'obéissance de la foi. C'est la préparation de la future épouse. C'est le temps dans lequel nous sommes. Paul va faire une déclaration aux Corinthiens qui va renforcer cette image. C'est dans 2 Corinthiens 11, verset 2. Dans 2 Corinthiens chapitre
11, verset 2,
Paul parlait à l'église de Corinthe.
Et il
a utilisé cette image justement
pour
montrer un petit peu le cœur du Seigneur par rapport à son Église.
Et
Paul dit, car je suis jaloux de vous, vous les Corinthiens, vous cette Église que j'ai fondée, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure.
Kuko nabahaye umugabo umwe niwe Kristo ngo ndabamushingire mumeze nk'inkumi itunganye.
Tout ce que nous faisons dans la dispensation de l'église, c'est la préparation de la fiancée.
Ibyo dukora byose muri kino giye mu gutegura ishengero mu kuba mwishengero no gutegura umugeni.
Tous ceux qui diront oui à l'évangile.
Abazovuga ngo yego turemeye ubutumwa bwiza.
Rentrent dans une connaissance avec le Seigneur Jésus.
Binjira mu kumenyana n'umwami Yesu.
Connaissent l'époux.
Le
futur époux, on peut
dire.
C'est l'image ici, bien évidemment.
La
deuxième étape,
c'était
la venue du fiancé qui vient chercher son
épouse.
Dans le Moyen-Orient, c'est comme ça que ça se produit.
C'est
une fois qu'on s'est bien mis d'accord avec les familles. Le garçon va dans la maison de la fille, des parents de la fille.
Et
il va chercher la fille.
Et
la sort de sa maison. Pour évidemment la ramener dans sa maison.
Dans
sa maison à lui. Et bien évidemment, ça c'est l'image de quoi? De l'enlèvement de l'église. Jésus va venir chercher son épouse. Sa fiancée. Ça c'est l'image de l'enlèvement de l'église. Il est dans la maison du Père. Au ciel, il va venir vers notre maison pour venir nous chercher. C'est pour ça que je vous rappelle qu'il y a de multiples preuves dans l'Écriture que l'Église ne subira pas la tribulation.
C'en
est encore une ici. Parce qu'il y a des gens qui enseignent que, je vous le rappelle, nous l'avions déjà vu,
que
l'Église sera dans la tribulation.
Et
franchement, quand on étudie l'Écriture, c'est faux.
Rappelez-vous,
Dieu va frapper la terre. Comment est-ce qu'il peut frapper la terre si son épouse est là? Donc il va enlever son épouse. L'image encore du mariage. Parce que son épouse ne subira pas la tribulation. C'est pour ça que tous les gens qui interprètent et qui veulent absolument dire oui, la Bible dit que quand ils voient le moindre truc sur Israël, ont tort. Parce que rappelez-vous que l'horloge prophétique pour Israël s'est arrêtée depuis le retranchement du Messie. Jésus est mort à la croix. Et que cette horloge prophétique va reprendre au moment même où Jésus va venir chercher son Église. Parce que je vous rappelle que dans toutes les prophéties de l'Ancien Testament, il
n'y
avait pas la révélation du mystère de l'Église dont Paul nous parle dans Éphésiens 3, je vous rappelle. Alors, évidemment, donc la deuxième étape, c'est l'avenue du fiancé qui vient chercher la fiancée, donc son épouse. Et la troisième partie, c'était les noces. Donc la conclusion du mariage. Et vivre dans la maison que l'époux a préparée. Et ça sera sur la terre. C'est pour ça que les noces de l'agneau sont vers la fin de l'Apocalypse. C'est là où on en parle. Parce que c'est là où ça va prendre place. C'est là où l'époux,
Christ,
viendra parfaitement habiter avec son épouse, l'Église, sur sa maison, sa propriété, la terre. Et ça va se faire d'une certaine façon. Ça sera la première partie, sera le règne de Christ pendant 1000 ans. Et ça sera pour l'éternité après. Alors nous avons une image forte aussi dans Matthieu 22. Du verset 1 au verset 14. Matthieu 22, verset 1 à 14, où Jésus donne une parabole justement sur des noces et des invités. Et là encore, Christ sous-entendait bien évidemment les noces de l'agneau. Nous allons lire ce passage assez rapidement et je vais vous faire un petit commentaire dessus. Donc du verset 1 au verset 14, il y a un autre passage dans Matthieu 25 où on parle des 10 vierges. Nous étudierons ce passage, mais là pour l'instant ce qui m'intéresse c'est de vous montrer cette image très forte dans l'écriture de l'époux et l'épouse. Jésus prenant la parole leur parla de nouveau en parabole et dit, je vous rappelle qu'une parabole donne un certain nombre de vérités, mais tous les détails ne sont pas bons à interpréter. Il faut faire attention à cela. Beaucoup de gens font des erreurs d'interprétation de la Bible parce qu'ils ne sont pas enseignés correctement. Ils commencent à prendre des paraboles et au bout d'un moment, ça n'a plus aucun sens ce qu'ils sont en train de dire. Donc il faut faire très attention quand nous interprétons les paraboles. Verset suivant, s'il vous plaît, merci. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Verset 3, il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Verset 4, il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux convives, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Verset 6, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Verset 7, le roi fut irrité, il envoya ses troupes et fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Verset 8, alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Alors cette première partie, du verset 1 au verset 8, va concerner Israël. Vous avez compris qui est le roi, c'est Dieu le Père, qui veut faire des noces à son fils, et il veut des conviés. Il y a un appel à venir aux noces. Et ça, le premier appel a été envoyé vers Israël. Et Israël a lamentablement échoué. Je vous rappelle qu'Israël avait pour mission de garder la connaissance de Dieu sur la terre et de la répandre. Mais ils ont échoué. Et ils ont été jugés par Dieu. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot avec Israël. C'est justement ce que nous allons voir à la fin de la tribulation. Donc, les premiers qui n'en étaient pas dignes, eh bien, c'est Israël. Ils ont rejeté le Dieu, ils ont rejeté le Messie. Ils n'ont pas voulu de lui. Donc, Dieu s'est fâché. Et l'image ici, il va inviter d'autres personnes. Verset 9, allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Verset 10, ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Verset 11, le roi entra pour voir ce qui était à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Verset 12, il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Verset 13, alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Verset 14, car il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Alors ici, nous avons encore deux groupes de personnes. Nous avons étudié le premier groupe au départ, l'appel envers Israël. Ils avaient toutes les promesses. Ils avaient tout. Mais ils ont échoué.
Ariko
donc Dieu va appeler d'autres invités. Et ces autres invités, bien sûr, c'est nous. C'est nous l'Église. C'est Dieu qui nous appelle au travers de son évangile. Pendant le temps de la dispensation de l'Église. Mais vous remarquez qu'il y a un autre groupe de personnes. Des gens qui veulent s'incruster. Venir donc à la fête, mais qui n'ont pas d'habits de fête,
les
habits de noces. Et vous allez découvrir au fur et à mesure qu'on va étudier juste la partie, la dernière partie de la tribulation, quand Jésus va revenir, qu'il va y avoir des paraboles communes à cette idée ici. Des gens qui voudront venir, mais ça sera trop tard. Parce qu'ils auront servi l'Antichrist et ils regretteront amèrement. Juste pendant le retour de Jésus, le deuxième retour. Et ils ne pourront pas à nouveau venir. Et c'est exactement ces paraboles que nous allons étudier et commenter. La parabole des 10 vierges, celles qui étaient folles et sages, c'est une des paraboles qui en parle.
Et
nous verrons aussi la parabole des bons et des mauvais serviteurs. Donc nous verrons ces paraboles. Et puis, bien sûr, la parabole des talents. Et c'est là où vous allez comprendre la fin de Matthieu 24 avec Matthieu 25. Et on refera un commentaire sur quand Jésus dit « J'étais en prison, mais vous ne m'avez pas visité, etc. etc. » On verra que c'est un texte qui est très mal utilisé. Et c'est un peu dommage parce que beaucoup de gens utilisent des textes qui sont mis complètement hors contexte.
Et
quand ils ont été dits, ces paroles qui ont été prononcées vraiment pour dans un contexte, c'est-à-dire dans un moment particulier qui va se produire. Donc revenons à l'Apocalypse. Mais gardez bien en mémoire cette parabole de Matthieu 22 que nous venons de lire. Parce que vous verrez, on va revoir cela. Donc les conviés aux noces. Et ceux qui ont essayé de venir au moment des noces, mais que Dieu a écarté. Vous allez voir, vous allez comprendre pas mal de choses après dans les prochaines séances. Donc là, je vais passer là-dessus parce qu'on va y revenir après. Au verset 10, il est intéressant de voir. Donc chapitre 19 verset 10 d'Apocalypse, là on voit que Jean est tellement subjugué, il est complètement tellement dans je dirais étonné de voir toutes ces révélations merveilleuses que là il va tomber devant l'ange. Et regardez bien l'ange refuse l'adoration et il est rempli d'intégrité vis-à-vis du Seigneur. Non, moi, on ne m'adore pas, moi. Le seul que tu dois adorer, c'est Dieu. Et il y a quelque chose, quand j'étudiais ce verset, il y a quelque chose qui vraiment m'est venu. Je vous rappelle que les anges, vous savez que nous avons été créés au-dessus des anges. Vous savez ça? Nous avons été créés au-dessus des anges. Je vais même vous montrer un verset qui va vous aider à comprendre beaucoup de choses. Mais d'abord, nous allons faire un petit tour dans Hébreux chapitre 1. On va revoir un peu le rôle des anges par rapport à nous, l'Église. Chapitre Hébreux 1, verset 13 et 14. La Bible nous dit, auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Regardez bien, ne sont-ils pas tous des esprits au service, regardez bien, au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut.
Ariko ni nde wo mu bamarayika yigeze kubarira ati cari buryo bwanje ushitse aho nzohindurira abansi bawe indava yo munsi birenge byawe mbega abamarayika bose simwe muzikorera zitumwa gukora igikogwa kugabazoragwa gakiza.
Les anges
abamarayika
ça nous est clairement dit ici
barabitubwira neza ngaha
sont au service de Dieu
ngo bari bugikogwa c'imana
envoyés pour exercer quoi, un ministère ou un service d'ailleurs. Envers qui? Envers vous et moi. Les anges sont ordonnés par Dieu, c'est-à-dire c'est Dieu qui leur donne des ordres pour servir le peuple de Dieu sur la terre. Mais pas seulement sur la terre. Ça sera aussi pour l'éternité. Ça sera aussi pour l'éternité, frères et sœurs. Les anges sont en dessous de nous. Tu vas lui dire, comment ça? On va regarder un petit verset. Ça va vous aider à comprendre quelque chose. Dans une épître de Pierre, Pierre va faire une déclaration très intéressante. Regardons 1 Pierre, chapitre 1, verset 8 à 12.
1
Pierre, chapitre 1, donc 1 Pierre 1, verset 8 à 12. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Les prophètes, regardez bien maintenant, il va parler des prophètes de l'Ancien Testament. Les prophètes, sous-entendu de l'Ancien Testament, qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leurs investigations. Verset 11, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, ça c'est pas une très bonne traduction, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Verset 12, il leur fut révélé, regardez bien, c'est pour ça qu'on parle ici des prophètes de l'Ancien Testament, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses qui vous ont annoncé maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Regardez bien ce petit morceau de verset à la fin. Et, regardez bien, et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Tu peux lire le verset 12 s'il te plaît seulement.
Gokandi bahishurigwa yuko atari bo bavyikorera ariko ko ari mwebwe babikorera. Nibyo none mumaze kubarigwa n'ababibwiye n'abababwiye ubutumwa bwiza bavugishijwe na mpemu yera yatumwe ava mu ijuru kandi ivyo abamarayika bifuza kubirunguruka.
Ici il y a beaucoup de richesse dans ce verset.
Uyu murongo urimo ubutunzi bwinshi.
Nous montre ces prophètes de l'Ancien Testament qui ont prophétisé des choses.
Batubwira bavugisha wa mwisezerano rya kera hari ibyo
bavuze. Touchant la grâce qui nous était réservée.
Bavuga kubijanye n'igihe n'ubuntu tuzohabwa.
On pense facilement à Isaïe quand il parle ou quand il prophétise au chapitre 53.
Aha twovuga nka Yesaya ariko aravuga mu gice ca 53.
Parlant des souffrances du Messie.
Ako aravuga ku mibabaro ya Mesia.
Et quand ils ont reçu ces prophéties des siècles, par exemple Isaïe a reçu 700 ans avant Jésus. Il a reçu toutes les prophéties qu'il a données. Il devait se poser des questions. Mais Seigneur, est-ce que c'est pour nous? Qu'est-ce que tu me donnes? Je ne comprends rien. Il devait se poser énormément de questions. Mais rappelez-vous que l'Église, la dispensation de l'Église était un mystère. C'est pour ça que Dieu n'a pas pu leur répondre directement. Et leur donner donc des réponses en leur disant, voilà, ça sera dans telle époque, il va se passer ça et ça et ça. Parce que le plan de la rédemption, de notre rachat, rappelez-vous, était caché. Il a été accompli en Christ et révélé dans les épîtres du Nouveau Testament, entre autres par Paul, je vous le rappelle. Donc ici c'est clair. La Bible nous montre qu'il y a eu ces prophètes, ensuite il y a eu des gens qui ont annoncer l'évangile maintenant.
Donc,
depuis la résurrection de Jésus, parce que l'évangile n'a jamais été annoncé avant la résurrection de Jésus. L'évangile, c'était que le Messie est mort et ressuscité pour nos péchés. Qu'on peut naître de nouveau. On ne pouvait pas prêcher l'évangile avant que Jésus ne soit mort et ressuscité. Ça n'aurait pas eu de sens. Donc, l'évangile a été prêché au moment donc, où Pierre parle. Et il dit dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Vous savez que les anges nous envient. Mais regardez l'écriture, frères et sœurs. Est-ce qu'il est dit que Jésus va régner avec ses anges? Non, il est dit qu'il va régner avec nous.
Mais
regardez l'écriture. Les anges nous serviront pour l'éternité. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour nous, les anges représentent beaucoup parce qu'ils n'ont jamais péché. Qu'ils ont une puissance extraordinaire. Rappelez-vous, dans les derniers chapitres que nous avons étudiés, il est parlé d'un ange puissant dont la gloire rayonnait sur toute la terre. Mes frères et sœurs, le salut n'a pas été réservé aux anges. Je vous le rappelle, eux, ils sont restés fidèles à Dieu. Ils sont des serviteurs de Dieu dans le domaine spirituel. Mais le règne n'est pas réservé aux anges. Les positions sur la terre ne sont pas réservées aux anges. Les anges nous serviront. Mais je vous rappelle que les anges n'ont pas été créés à l'image de Dieu. Nous l'avons été créés à l'image de Dieu. Dieu n'a pas donné aux anges de régner sur sa propriété. Il a donné à Adam et Ève de régner sur sa propriété. Ils ont tout gâché dans le royaume. Mais heureusement, Dieu le Fils, qui s'est fait chair, est venu nous racheter pour que justement le royaume soit restauré. Au moment où il le désirera. Au travers du millénium et après au travers de l'éternité pour la perfection. Nous verrons que le millénium ne sera pas un règne parfait dans le sens où la terre ne sera pas parfaite à cette époque. Il y aura encore des gens qui vont pécher, on verra pourquoi. Mais qui seront réprimés très fortement. Par contre, après le millénium, dans l'accomplissement de toutes choses, dans ce qu'on appelle la consommation totale du salut,
et
bien là, à ce moment-là, tout sera parfait.
Où
Dieu recréera la surface de la terre, nous allons voir, et nous régnerons avec lui. Donc vous savez, les anges nous respectent beaucoup dans ce domaine-là. Parce qu'ils savent que le royaume du Père a été donné au peuple de Dieu. Sachons-le. Ils ont leur place dans le royaume, mais nous avons une place supérieure à
eux dans le royaume.
Ce qui a fait que l'homme, après, a été inférieur aux anges, c'est le péché. Mais, ce jour-là, lorsque nous serons ressuscités, que nous aurons nos corps glorifiés, après avoir reçu nos récompenses, je vous le rappelle, nous retrouverons une gloire de la dignité que Dieu a donnée à l'homme au début de la création de l'homme. C'est pour ça que ce verset dit que les anges désirent plonger leur regard. Dans le texte grec, ça ressort mieux. Mais il y a un désir. En fait, il y a en quelque sorte, ils nous envient quelque part. Il y a des choses que nous devons savoir, frères et sœurs. Et ce n'est pas du tout pour nous glorifier.
Mais
parce que nous le verrons avec nos yeux. Amen. C'est important de savoir ces choses-là. Maintenant, nous allons lire la suite du chapitre. Donc, bien sûr, l'ange, Jean ne peut pas se prosterner et adorer un ange, ça serait un péché.
Nuko mareka rabuza Yohana kwa musenga
cari ko baricha. Je vous rappelle que les démons et le diable ne demandent que cela.
Ndakwibutsa ko Satani na madaimon nta nikindi basaba.
Ce qui est réservé à Dieu, c'est l'adoration.
Ikibikiwe imana no gusenga.
Et les anges déchus bien sûr le désirent.
Ariko abamareka baguye baravyifuza ko basengwa
nabo. Pourquoi je vous rappelle ils ont péché.
Nico gituma bakoze cha.
Verset 11 maintenant. Donc du verset 11 jusqu'au verset 21, jusqu'à la fin du chapitre, je crois que c'est le verset 21 si mes souvenirs sont bons.
C'est ça.
Là, nous allons voir le deuxième retour de Christ. Et la bataille d'Armageddon. Alors, nous avions déjà vu certaines choses sur ces deux sujets-là. Mais nous allons expliquer étape après étape, parce qu'il y a beaucoup d'événements qui vont se produire. Et ces événements, il faut bien les comprendre. Bon, on va lire d'abord tout ce texte. Puis après, je vais commencer à vous donner l'ordre chronologique de tous les événements qui vont se produire à partir de ce texte. Jusqu'au moment où il va y avoir l'entrée dans le millénium. Donc là, nous sommes vraiment au bout du bout du bout de la tribulation. La tribulation va se clôturer par le deuxième retour de Jésus. Et c'est exactement ce que ce texte va nous dire. Et pour que le deuxième retour de Jésus se déclenche, hormis les 7 ans qui sont prophétisés, il va y avoir une bataille clé qui va s'appeler, que la Bible appelle la bataille d'Armageddon.
Et
nous allons voir qu'il y a beaucoup d'événements qui vont se produire. Tout sera concentré et tout est concentré sur Israël. On va lire brièvement tout ce texte, du verset 11 au verset 21. Je vais le lire en français simplement. Puis je vis le ciel ouvert et voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Verset 12, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Vous vous rappelez de l'Apocalypse chapitre 1, de la vision que Jean reçoit de Jésus glorifié. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Verset 13, il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Donc nous savons qui était sur ce cheval, bien sûr, Jésus. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient. Les armées célestes, je vous rappelle, c'est les anges. Nous avions étudié cela. Dans le ciel, le troisième ciel, le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc et pur. Verset 15, de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Regardez bien, frapper les nations. Il les pétera avec une verge de fer. Nous étudierons ça particulièrement dans le millénium. Et il foudra la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. C'est-à-dire, c'est là où la colère va complètement s'accomplir. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Verset 17, « Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Et il cria d'une voix forte. » Je vous rappelle que ce n'est pas le soleil physique ici. « Disant à tous les oiseaux qui volaient, c'est une image aussi, par le milieu du ciel, venez et rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. » Et celui-ci, le grand festin de Dieu, ce n'est pas les noces de l'agneau. Pas du tout. C'est la bataille d'Armageddon et la victoire sur toutes les nations. Afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires. Donc, vous voyez, les puissances donc, politiques de ce monde. La chair des puissants, la chair des chevaux et tous ceux qui les montent. La chair de tous libres, esclaves, petits et grands. Nous verrons qu'à la fin de la tribulation, Dieu va faire mourir tous les inconvertis. Verset 19. Et je vis la bête, l'Antichrist, et les rois de la terre, et leur armée rassemblée pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Ici, c'est rassemblé, toutes les nations vont être assemblées, ça va être ce qu'on appelle la bataille d'Armageddon. On va étudier cela. Verset 20, et la bête fut prise, donc l'Antichrist va être pris et détruit, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Nous avions étudié tout cela. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Verset 21, et les autres furent tués, tous les autres hommes, par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Donc ici, nous avons deux événements. D'abord, le deuxième retour de Jésus. Et ensuite, nous avons la bataille d'Armageddon et sa finalité.
tukabona intambara ya Harumagedoni n'intumbero ya nyuma yayo.
Alors, pour mieux comprendre, il nous faut pas mal de textes bibliques à côté de ça.
Kugira ngo tubitahure neza, turakeneye ibindi bice by'ijambo ry'Imana bishobora kutumurikira.
C'est pour ça que nous allons regarder chronologiquement d'après les différentes prophéties que nous avons dans la parole de Dieu.
Nico gituma tugira turabe mu mwanya bigenda birakurikiranamwo
bibaye
n'uvugisha.
Quels sont les événements qui vont se produire et jusqu'à temps que on arrive au chapitre 20, c'est-à-dire le chapitre 20, c'est l'entrée dans le millénium, comme nous allons le voir. Alors, d'abord, il va falloir comprendre la première chose qui va se produire. C'est que toutes les nations vont se lier contre Israël. Dans la vallée qu'on appelle la vallée de Megiddo, nous avions projeté une carte. Dans cette vallée de
Megiddo,
et nous avions vu que c'était à quelques dizaines de kilomètres de
Jérusalem.
Dans cette grande vallée, dont nous avons la carte ici, donc au nord de Jérusalem. Et c'est là où les armées vont se réunir. On appelle ça aussi parfois dans d'autres textes la vallée de
Josaphat.
Alors, on va regarder, il y a plusieurs textes qui nous en parlent dans l'Ancien Testament. On va regarder Zacharie chapitre 12. Et il y a une prophétie qui parle de cela. De la préparation de la bataille d'Armageddon. Rappelez-vous, l'Antichrist va tout faire pour persécuter les croyants, ceux qui vont naître de nouveau pendant la tribulation. Beaucoup vont mourir pour leur foi,
mais
un certain nombre vont rester vivants. Et rappelez-vous qu'au chapitre 12 de l'Apocalypse, nous avions cette image du dragon qui poursuivait la Vierge, qui avait donné la naissance à l'enfant.
Et
vous vous rappelez que la Vierge, c'était Israël, ce n'était pas Marie. Et le dragon a poursuivi donc la femme dans le désert qui avait donné naissance à l'enfant, à
Jésus.
Et au bout d'un moment, elle était tellement protégée qu'il s'est arrêté de le faire.
Et nous
savons que ça, c'est l'image de Satan qui a essayé de détruire Israël, bien des fois, qui va essayer de le faire pendant la tribulation. Et après, il va persécuter les chrétiens. Mais juste à la fin de la tribulation, Satan va se déchaîner. Rappelez-vous, les systèmes de ce monde sont par terre. La terre est dans un désordre gigantesque. C'est la confusion. Beaucoup s'appellent Christ. Beaucoup se disent des prophètes. C'est une confusion spirituelle, naturelle. Dans tous les sens, c'est la confusion. Seulement ceux qui ont vraiment un cœur honnête et sincère arriveront à faire la différence.
Et
rappelez-vous, pendant cette période de la deuxième partie de la tribulation, beaucoup de gens s'initient, prophètes, font des miracles, des signes, des prodiges, beaucoup de surnaturels sataniques. C'est le piège de la séduction où les gens vont se donner et prendre la marque de la bête. Alors, dans Zacharie, au chapitre 12, nous allons lire donc plusieurs textes. Nous allons lire de versets 1 à 3 et puis nous verrons aussi le verset 11.
Donc,
chapitre 1 jusqu'au verset 3, il est dit « Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. » Verset 2 « Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples alentour et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. » Verset 3 « En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. » tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre, regardez bien ici, toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Verset 3, Kirundi, s'il te plaît, merci.
Uwo munsi nzohindura Yerusalemu ibuye riremera mahanga yose, abazogikorera bose bazokomereka bibi, kandi amahanga yose yo mwisi azokoranwa no kuhagwanya.
Alors, on peut regarder effectivement le verset 11 qui nous a été projeté tout à l'heure. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem comme le deuil d'Adadrimon dans la vallée de Megiddon.
Donc,
il y a une analogie ici. Alors, ce qu'on voit au début du texte, surtout, c'est quoi? C'est que, en fait, la Bible nous montre qu'il va y avoir toutes les armées qui vont venir contre Israël.
Verset 9,
regardez un petit peu, toujours le même chapitre.
Verset 9,
il est dit, en ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Donc la première chose que nous savons, c'est qu'il va y avoir un rassemblement de toutes les nations contre qui? Contre Israël. Maintenant, regardons Joël. Alors, pour trouver le prophète Joël, vous prenez Ézéchiel, Daniel, et après, on est dans les petits prophètes.
Ézéchiel,
Daniel,
Daniel,
et vous allez vers le Nouveau Testament encore, vous allez trouver Osée. Et après, vous avez Joël. Donc, c'est le deuxième petit prophète, en quelque sorte, dans la réunion des livres des petits prophètes. Alors, nous allons lire au chapitre 4. Mais je sais que peut-être en Kirundi, comme c'était une traduction de la Bible anglaise, on ne va pas trouver le chapitre 4. Donc, ça sera certainement au chapitre 3 pour vous, en Kirundi. Nous, dans la Bible en français, c'est au chapitre 4. Et je pense que tu vas trouver ça à partir du verset 14. Au chapitre 3-14 en Kirundi. Je pense, 3-14, où il est dit, proclamez ceci parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les héros. D'accord? Alors, en français, c'est 4-9 et en Kirundi, c'est 3-14. Ok? Alors, on va lire donc 4, verset 9, Joël. Donc on va lire à partir du verset 9. Publiez ces choses parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre. Verset 10. De vos hoyaux, forgez des épées et de vos serpes des lances, que le faible dise je suis fort. Tiens, c'est un chant que nous chantons, que le faible dise je suis fort. Mais là, c'est dans un autre contexte. Croyez-moi, ils auront besoin de la force du Seigneur, c'est clair. Verset 11. Hâtez-vous et venez toutes les nations d'alentour et rassemblez-vous là, ô Éternel, fais descendre tes héros. Verset 12. Que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat, car je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Verset 13. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez fouler, car le pressoir est plein. Les cuves regorgeront, car grande est leur méchanceté. On va lire jusqu'au verset 14. C'est une multitude dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Ça parle de la future bataille d'Armageddon, des nations qui sont autour de Jérusalem, enfin d'Israël, contre Israël. Alors, est-ce que tu pourras t'en sortir?
Gwendani mwamamaze ibi mu mahanga ni kuva kuri 39 no mu Kirundi Yoweri 39 muti nimugabishe mugomore abahiza ingabo zose nizigire hafi ziduge amasuka yanyu muyavunja vunje muyacure mw'inkota n'inkero zanyu muzivunja vunje muzicure mw'amacumu kandi umunyantege nke niyivuge ko ari muhizi nimunyaruke muze yemwe mahanga mwese yo hijyano hino mukoranire hamwe na uhoraho mugomore abahizi bawe bamanuke amahanga ni ikangure aduge aje mu kiyaya ciye Hoshafati kuko ariho nzovyagira ngacira amateka amahanga yose yo hijyano hino ni musohora imihoro kuko yimbura rigeze ni muze mugane kuko ubwato bwuzuye kandi amata akaba abogaboga kuko ibibi byabo ari byinshi.
Et là, les commentateurs bibliques s'accordent quasiment tous à dire que ce sont des versets qui prophétisent justement la bataille d'Armageddon.
Alors, abasobanura bibiliya bose basa n'abahuza bavuga yuko ari amajambo avuga ku ntambara ya Armageddon.
La fameuse vallée de Josaphat.
Muri chakia ya cha Yehoshaphat.
Et en fait, on s'aperçoit qu'il va y avoir cette immense bataille. Les nations vont se liguer contre Israël.
Alors, turabona yuko hazobaho iyi ntambara ikomeye ibihugu bikorane kugira ngo bigwanye Israël.
Vont se réunir contre Israël. Et nous le savons, au chapitre 16 d'Apocalypse, on va lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 16. Et là, ça va nous parler encore de cette fameuse bataille d'Armageddon. Il est dit, ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler. Regardez bien, afin de les rassembler pour tout le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Verset 15, voici je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, celui qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. On avait étudié ces passages-là. Jésus qui vient comme un voleur. On va les réétudier dans les paraboles. Fin de Matthieu 24. Et ils les rassemblèrent dans un lieu appelé en hébreu Armageddon.
Et
donc c'est clair que d'après tous ces textes, il va y avoir toutes les nations de la terre qui vont amener leurs armées dans cette vallée de
Megiddo,
la vallée de Josaphat. Et nous savons à peu près géographiquement où ça se trouve. Et là, Israël va se retrouver avec de sérieux problèmes. Nous le verrons la prochaine fois, nous verrons qu'Israël va être complètement épuisé et au bord du gouffre. Nous verrons que c'est là où ils vont se repentir et se convertir en masse. Et c'est là où Jésus va revenir, deuxième retour. Nous verrons avec nous, c'est ça. Et il va écraser et détruire ses armées. Ensuite, il va détruire l'Antichrist et le faux prophète. Le Seigneur va faire mourir après autre chose, juste à la fin du monde, tous les inconvertis. Il va d'abord séparer ses enfants, ceux qui sont nés de nouveau et qui seront encore vivants dans leur corps, à la fin de la tribulation. Il va faire mourir tous les inconvertis. Et c'est là où le Seigneur Jésus va reprendre la domination sur sa propriété. Et où il y aura une légère période de transition. Mais
ne
vous inquiétez pas, ce ne sera pas une transition à la burundaise. Et on essaiera de comprendre certains textes juste de la fin du prophète Daniel. Et ça nous permettra d'avoir un certain éclairage. Et là, Jésus viendra établir son règne à Jérusalem. Pendant 1000 ans. Et ayant enchaîné le diable et ses petits copains. Donc, on va y aller étape après étape, avec tous les détails que la parole de Dieu nous montre. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email mesburundi@yahoo.fr.